Voilà, on va ensemble partager bien sûr la bonne parole de Dieu. Je vous salue de la part des chrétiens de Nice, voilà, qui bien aussi sont certainement rassemblés ou vont se rassembler dans quelques instants pour partager l'évangile. Peut-être qu'au milieu de nous cet après-midi, il y a des amis qui sont là pour la première fois, l'une des premières fois, et vous ne savez pas trop ce qu'est l'évangile. On va essayer de vous l'expliquer simplement. Ce qu'on aimerait, c'est que à la fin de cette réunion, vous qui ne connaissez pas encore l'évangile, vous puissiez dire l'évangile, c'est formidable. Et surtout que l'évangile ait pu faire une œuvre dans votre cœur. Amen. Il ne faut jamais désespérer, il ne faut jamais... Parfois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais ça fait longtemps que je prie, et ceci et cela, il n'y a rien qui arrive. » Mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et quand il a décidé de répondre, il répond. Amen. On va lire ensemble, si vous voulez bien, deux textes. Le premier, dans la première lettre de Paul à Timothée. La première lettre de Paul à Timothée, le chapitre 1er, le verset 12. Il fait meilleur ici qu'à Marseille. Il faisait très chaud à Marseille. Il y a 5-6 degrés d'écart avec Marseille. Là, je le ressens, je peux vous dire. J'ai l'impression d'être déjà au repos. Alors l'apôtre Paul dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et puis on va dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée au chapitre 4 au verset 6. Deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée, le chapitre 4 et le verset 6. Voilà ce que l'apôtre Paul écrit à Timothée. « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. » Voilà donc deux écrits laissés par l'apôtre Paul à Timothée. Et dans l'un et l'autre, eh bien, on y découvre certaines choses. Je dirais que dans la première lecture que nous avons faite ensemble, il est question du commencement de la vie chrétienne de cet homme. Et dans la deuxième lecture, il est question de la fin de sa vie chrétienne ici-bas sur la terre. Entre les deux, bien sûr, il y a toute une marche avec Dieu. Et durant cette marche, il sera fidèle à Dieu, bien sûr, mais surtout, bien Dieu, lui, sera fidèle à l'égard de son serviteur. Vous savez que Dieu est fidèle, hein, pas vrai ? Et sa fidélité est grande, elle nous surprend même quelquefois. La Bible va même jusqu'à dire que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Et sa fidélité, elle est quelquefois surprenante. Toujours est-il que l'apôtre Paul écrit à Timothée et dans le premier texte, il parle de son commencement de la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle ne commence pas à la naissance. Il y a des gens qui nous disent quelquefois « Je suis chrétien depuis que je suis né ». La vie chrétienne, elle commence à la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau pour commencer une vie chrétienne telle que Dieu l'a définie dans sa parole. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes forcés de constater que beaucoup affirment être chrétiens, mais n'ont jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance, d'une rencontre personnelle avec Jésus-Christ qui a pu changer, transformer à tout jamais leur vie. Je me rappelle d'un jeune homme à Nice que j'avais été voir avec un jeune chrétien. Et ce jeune homme, ce monsieur, il me disait qu'il était chrétien. Mais à l'écouter, je me rendais bien compte qu'il n'était pas chrétien. Alors au bout d'un moment, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais dites-moi, c'est quoi un chrétien pour vous? Alors il a commencé par me dire, d'abord il a réfléchi un peu, puis il a commencé par me dire, un chrétien, c'est quelqu'un qui fait du bien aux autres. Et je lui ai dit, monsieur, beaucoup ne sont pas chrétiens et sont capables de faire du bien aux autres. Pas vrai? Heureusement d'ailleurs. Il n'y a pas que les chrétiens qui font du bien aux autres. N'est-ce pas? Et il a commencé, il a poursuivi en me disant certaines choses. Oui, mais le chrétien fait ceci, fait cela. Et je me suis bien rendu compte qu'il lui manquait l'essentiel. Alors j'ai dit, écoute, je vois que tu ne sais pas trop, mais je vais un peu t'aider, si tant est que je puisse le faire. Parce que mon intention était vraiment de l'aider. Je lui ai dit, un chrétien, en fait, c'est quelqu'un qui a fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et cette rencontre, eh bien, va changer sa vie. Et c'est ainsi qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a été transformé, qui est encore en train d'être transformé par la puissance de Dieu. Et s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas eu ça dans ta vie, eh bien, il te manque l'essentiel. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui peuvent dire, j'ai rencontré Jésus et ma vie a été changée, transformée? Si c'est le cas, gloire à Dieu. Et si ça ne l'est pas, il faut que ça vous arrive, comme c'est arrivé à l'apôtre Paul. Parce que quand je regarde le texte, je m'aperçois que cet homme, il a connu une transformation extraordinaire. Avant d'être l'apôtre Paul, il dit qu'il était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. C'était un homme qui s'opposait à l'évangile, un homme qui s'opposait aux chrétiens. Il allait de maison en maison, arrachant hommes et femmes pour les jeter en prison. La Bible va jusqu'à dire qu'il respirait la menace et le meurtre. Ça ne doit pas sentir bon une telle respiration, n'est-ce pas? Eh bien, lui, il respirait la menace et le meurtre. Ah, je dis qu'il avait vraiment besoin d'être changé par Dieu. On me dira, oui, pasteur, quelqu'un qui est comme ça, bien sûr, il faut que Dieu le change. Mais moi, je suis tellement bien que je n'ai pas besoin que Dieu me change. Ben, il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois que tu n'es pas si bien que ça. Et que tu as besoin aussi d'être transformé par Dieu. Tu as d'abord besoin d'être pardonné, car un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent qui respire la menace et le meurtre, il a d'abord besoin du pardon de Dieu. Il a besoin de venir à Dieu et de s'humilier devant lui pour lui réclamer sa grâce, sa clémence, son pardon. Et c'est ce que cet homme va faire. Il va demander pardon à Dieu et plus tard il le dira, et même ici il le dit, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, pour apporter le pardon aux pécheurs. Et ça, il en a fait l'expérience. Alors si cet après-midi, tu n'en es pas là encore, eh bien il faut faire ce pas, il faut aller jusque-là et que tu demandes au Seigneur de pardonner tous tes péchés, parce que la Bible dit que le sang de Jésus, ce sang versé à la croix du calvaire, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et quelle que soit la somme de tes péchés, quelle que soit, je pourrais dire, la misère de ta vie, eh bien, comme nous l'avons fait, comme d'autres l'ont fait avant nous, comme d'autres certainement le feront après, eh bien, viens au Seigneur, réclame-lui son pardon, il te le donnera, il te l'accordera, et à partir de ce moment-là, il y a un processus de transformation qui va s'opérer en toi. Ce n'est pas toi qui va te changer, parce que tu auras pris une bonne résolution, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui va transformer ton cœur pour le rendre semblable au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est un long travail du Seigneur pour nous changer et être de plus en plus ressemblant à Jésus, pas vrai? Je ne sais pas où vous en êtes, vous, les uns et les autres. Mais moi, je vois, je me dis, Seigneur, il y a encore du travail en moi. Et j'ai besoin que tu le fasses. J'aimerais que tu transformes encore ma vie. Et vous savez, alors, je remarque quelquefois, eh bien, on se contente du pardon, on dit merci Seigneur, c'est formidable, c'est vrai, ça l'est, c'est la chose la plus importante. Et ensuite, eh bien, on oublie, on néglige que le Seigneur, il veut vraiment transformer notre vie dans le but de le refléter, afin que cela serve de témoignage à ceux qui nous entourent. Vous voyez ? Et malheureusement, quelquefois, on n'accepte pas que le Seigneur fasse cette œuvre. Ou du moins, on veut bien qu'il la fasse, mais superficiellement, pas en profondeur. Mais le Seigneur, lui, veut aller en profondeur. Et depuis quelques années maintenant, je sais que le Seigneur travaille mon cœur sur certains aspects de ma vie, et notamment sur les motivations de mon cœur. Ah, quand on commence à s'attaquer aux motivations des cœurs. Hier, je discutais avec une dame, une chrétienne. Elle me disait, qu'est-ce que tu en penses, Frédéric, du Pax ? Est-ce que pour Dieu, ça passe, ça ? Le Pax, c'est ce qui passe. Alors, elle dit, écoute, pourquoi se paxer quand on peut se marier ? Ah ouais ? Et pourquoi je lui ai dit ça ? Parce que je voulais avoir les motivations du cœur, en fait. Alors, elle ne me parlait pas d'elle-même, elle me parlait de sa fille, qui malheureusement vivait en concubinage, et qui, eh bien, pour mettre, soi-disant, plus ou moins sa vie en règle avec Dieu, eh bien, s'est dit, je vais me paxer. Alors, elle a apaisé un peu sa conscience de cette manière. Elle est paxée et elle pense qu'avec Dieu, tout est réglé. Mais en fait, rien n'est réglé. Et en grattant un peu, eh bien, la maman m'a avoué une chose, elle m'a dit, oui, qu'est-ce que tu veux ? Elle ne veut pas se marier parce que si elle se marie, elle risque de perdre quelques avantages. Et là, on a les motivations. Pas vrai ? J'y trouve pas intérêt à me marier pour certaines choses. Donc, je vais m'arranger un peu avec Dieu, du moins je vais essayer que Dieu accepte mes conditions. Mon contrat, comme l'entraîneur de Marseille, il manquait une virgule, il est parti. Et parfois, c'est comme ça avec Dieu, on essaie de jouer de cette manière avec le Seigneur, mais ça ne fonctionne pas. Devons laisser Dieu agir dans notre cœur, aller en profondeur, aller peut-être même jusqu'aux motivations de nos cœurs pour savoir qu'est-ce qui m'anime quand je fais telle ou telle chose, quand j'agis de telle ou telle manière, quand je réagis de telle façon à une situation précise, eh bien, le Seigneur regarde. Quelquefois, je me rappelle, pour donner un ordre d'idée, à tout début de mon ministère, on a un système de reconnaissance, il est ce qu'il est, il a des très bons côtés, mais il a un côté un peu pervers au départ. Parce que, quand vous commencez dans le ministère, on vous envoie prêcher dans d'autres églises pour que d'autres pasteurs vous entendent. Et c'est normal, pas vrai ? Mais là où il y a le côté pervers, c'est que le gars qui va aller prêcher, le jeune qui va y aller, eh bien, il ne va pas prêcher à ceux qui sont là en face, il va prêcher au prédicateur. Vous voyez ? Il va faire attention parce qu'il y a le prédicateur, le pasteur qui est là. Et moi, pendant un temps, ça a été comme ça. Oh là là, il va y avoir tel pasteur. En plus, moi, j'ai commencé avec un pasteur, je peux vous dire. Avec lui, on tremblait. Je me rappelle au début, quand j'ai commencé, la première fois que j'ai prêché, c'était un mardi après-midi, mon pasteur me dit, tu prêches 10 minutes. Et puis, le jour J, mon pasteur n'est pas là, il est malade. Alors, je me dis, super, je ne prêche pas. Et parce que j'avais l'ancien pasteur qui était là, M. Burki. Et je me dis, il ne doit pas le savoir, je suis tranquille. Alors, je vais m'asseoir à côté de lui avant la réunion. Et puis, au bout de quelques minutes, il me dit, « Alors, c'est toi qui fais le discours aujourd'hui ?»« Oh là là, Seigneur, ta grâce !»« C'est pas possible une telle chose, vrai ?» Et j'ai fait mon discours comme je le pouvais. À la fin, il s'est levé et il a dit, « Bon, ça va, pas mal. » Il a dit qu'une chose, c'est que ses genoux, il jouait des castagnettes, mais avec le temps, ça va s'arranger. Ensuite, je me rappellerai toujours. Il a mis la main dans la poche arrière, là, et il a sorti une petite Bible Gédéon. Vous voyez ? Petite Bible bleue, là. Vous en avez vu déjà des Bibles comme ça. Il a pris. Alors, moi, j'avais lu un texte, je m'étais arrêté à un certain endroit. Lui, il a continué derrière la lecture, juste après. Et pendant une demi-heure, il a prêché. Et moi, je le regardais, je l'écoutais. Et là, j'ai compris, Seigneur, vraiment, il y a beaucoup de progrès à faire encore. Hein. Ah ouais ? Alors, il y a un peu ce côté pervers parce que on vient, on se dit, ouais, il y a le prédicateur, il y a celui-ci, celle-là. Et un jour, quand je partais faire une réunion, comme cela, dans la voiture, le Seigneur, il a parlé à mon cœur. Et il m'a dit, à qui tu vas prêcher aujourd'hui ? Et je ne savais pas trop quoi répondre au Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, je voudrais que tu prêches aux personnes que je t'envoie et qui ont besoin de moi. Ne te trompe pas. Aie la bonne motivation dans ton cœur. Et ça, ça m'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui, vous voyez. Et je crois qu'il faut le garder. On parle à des gens qui ont besoin de Dieu, qui ont besoin de sa grâce, et pour lesquels nous savons que Dieu peut faire quelque chose, que Dieu peut les secourir, parce que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Et voyez-vous, quand il y a le pécheur, il est malheureux. Le pécheur qui n'a pas le pardon, il est malheureux. Parce que la Bible dit qu'ils sont devenus malheureux à cause de leurs iniquités. Il y a des gens qui vivent un mal-être, un malaise intérieur, se demandent pourquoi, ne comprennent pas, ils ont tout ce qu'il faut pour être heureux, ils ne sont pas heureux. Ben, ils ne sont pas heureux parce que le pardon des péchés n'est pas encore venu jusqu'à eux, ils n'ont pas encore reçu. Mais cet après-midi, nous sommes là pour vous dire qu'il est possible de recevoir le pardon qui vient de Dieu. Parce que Christ a payé bien la facture pour cela, de sa vie. Il a donné son corps, son sang, et tout cela, il l'a fait par amour pour nous, pour notre salut, et pour que Dieu puisse nous accorder le pardon. Et cet homme, l'apôtre Paul, c'est ce qu'il va expérimenter. À partir de là, sa vie va être complètement changée, complètement transformée. Et d'un persécuteur, il va devenir un prédicateur. D'un instrument de haine, de violence, il va devenir un ministre d'amour et de grâce. Et cet après-midi, Dieu voudrait aussi nous transformer, alléluia. Alors, il a travaillé, il a beaucoup travaillé, l'apôtre Paul. Mais il dira malgré tout que s'il avait beaucoup travaillé, s'il avait fait du bon travail même, c'était pas par ses propres forces ou ses propres capacités, mais c'était par la grâce de Dieu. Il dira, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi, eh bien, cet homme va travailler d'une manière fidèle à Dieu, et il va eh bien, vraiment le faire avec zèle, avec beaucoup de zèle. Il va le faire avec humilité aussi. Souvent, vous l'entendez dire, je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Donc, vous voyez, il fait ce travail avec beaucoup d'humilité. Il ne s'en croit pas, pas bien de ceux qui s'imaginent être quelqu'un d'important. D'ailleurs, dans une des lettres de Paul aux Corinthiens, parce qu'à Corinthe, à l'église de Corinthe, certains disaient, moi, je suis de Paul, moi, je suis de l'apôtre Pierre, moi, mon mentor, c'est Apollos, etc. Et Paul va remettre tout ça bien d'aplomb en leur disant, qu'est-ce que Pierre, qu'est-ce qu'Apollos, qu'est-ce que Paul, simplement des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru. J'ai planté, dira-t-il, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître, de telle sorte que ce n'est ni celui qui plante, ni celui qui arrose qui est quelque chose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Donc, tout son travail, son ministère se fera avec de l'humilité, non pas d'une manière, comment je pourrais dire, Paul avait conscience qu'il n'était pas parfait. Il y a des gens, quand vous parlez avec eux, vous avez l'impression qu'ils sont parfaits. Ça vous arrive, ça ? Ce n'est pas possible, comment ça se fait ? Ils sont capables de faire plein de choses, ils le font bien, En Éric, ils n'ont jamais de problème, ils ont toujours le moral. Et quand vous les voyez, vous dites, mais moi, je suis misérable à côté de celui-là, pas vrai? Hein? Il y a des gens qui sont comme cela. Mais l'apôtre Paul, même quand on l'a surestimé, il dira certaines choses justement pour qu'on ne le surestime pas et pour qu'on ait de lui une juste opinion. Vous voyez? Ça, c'est travailler dans le bon état d'esprit. C'est pourquoi je crois aussi que Dieu a béni son travail. Et puis, c'est un homme aussi, durant son ministère, qui a su être vraiment consacré à Dieu, qui a donné toute sa vie au Seigneur, et qui a été prêt, eh bien, à mourir à lui-même. Je pense que je peux me permettre de dire cet après-midi que l'une des grandes difficultés du christianisme moderne, si tant est qu'il y ait un christianisme moderne, parce que moi je crois qu'il y a un christianisme tout court, c'est le manque de désir de mourir à soi-même. On est d'accord pour que Dieu bénisse, on est d'accord pour que Dieu nous remplisse, on est d'accord pour que Dieu nous dirige. On est d'accord pour que Dieu nous éclaire. On est d'accord pour que Dieu nous appelle. On est d'accord pour que Dieu nous établisse. On est d'accord pour que Dieu se serve de nous. Mais est-ce qu'on est d'accord de mourir à soi-même? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on est d'accord et est-ce qu'on est prêt à faire ce qu'il nous a demandé de faire, lui le Seigneur, c'est-à-dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Se charger de notre croix. C'est-à-dire accepter d'aller jusqu'à la mort à soi-même. Parce que la finalité de la croix, ben c'est quand même la mort, non? Non? Et quand j'accepte de prendre ma croix, comme il dit, eh bien, il veut que j'accepte de mourir à moi-même, c'est-à-dire que je dois être capable de m'effacer, de mettre en arrière et de côté ce qui semble être mes priorités, mes désirs et tout cela. Comme a dit quelqu'un, j'ai beaucoup aimé quelqu'un, parce qu'on lui a posé la question, il a dit... Est-ce que dans ce domaine-là, je dois faire la volonté de Dieu? Est-ce que dans tel autre, je dois faire la volonté de Dieu? Dites-moi un peu, pasteur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et le pasteur lui a répondu, aime Jésus et après fais tout ce que tu veux. Mais je trouvais que c'était une bonne définition de ce que doit être notre vie consacrée à Dieu. Aime le Seigneur et fais tout ce que tu veux. Parce qu'en général, si on aime le Seigneur, en principe en tout cas, si on aime le Seigneur, on sera capable de faire ce qu'il veut, pas vrai? Paul fut consacré à Dieu. Et à un moment donné, parce que là aussi, vous savez, c'est la vie de l'esprit. Il y a des gens qui veulent la vie de l'esprit parce que pour eux, et on y croit, il y a les miracles, les prodiges, les dons spirituels, il y a tout cela, ça fait partie de la vie de l'esprit, on est heureux de le vivre, n'est-ce pas? C'est bon quand on vit la vie de l'esprit, non? Quand il y a des dons spirituels qui parlent, eh bien, à quelqu'un, quand, vous voyez, il y a une action de l'esprit, que les gens sont convaincus de la présence de Dieu, la révélation de Christ se manifeste dans les cœurs, dans les vies. On est tout heureux de vivre ces choses et on veut les vivre encore davantage. Mais la vie de l'esprit ne s'arrête pas là forcément, elle a toutes sortes d'aspects. Par exemple, à un moment donné, l'apôtre Paul dit, de lieu en lieu, partout où je passe, le Saint-Esprit m'avertit. Et il me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Ah, si un dimanche matin, on entend un don spirituel nous annoncer que des liens et des tribulations nous attendent, il y a de fortes chances qu'on commence à dire « il n'est pas trop inspiré celui-là, il n'a pas dû boire le café ce matin, donc il est de mauvaise humeur ». Et pourtant, Paul va le vivre. Un jour, il est même dans une réunion et il y a un brave prophète. Ce prophète, moi, j'aurais pas aimé l'avoir dans mon église, celui-là, parce qu'il annonçait que des choses mauvaises. Il annonçait la famine, il annonçait plein de choses. Vous voyez, c'est un drôle de prophète celui-là. Mais il était prophète. Et dans une des réunions, il prend la ceinture de l'apôtre Paul, il va se lier avec la ceinture de Paul, il va dire, voilà, l'homme à qui appartient cette ceinture sera de la même manière lié à Jérusalem, etc. Oula ! Quand les autres, ils ont entendu ça, ils ont compris que la ceinture, c'était à l'apôtre Paul. Ils ont dit à l'apôtre Paul, mais Paul, le Saint-Esprit t'avertit. Pourquoi il t'avertit le Saint-Esprit ? C'est pour que tu n'y ailles pas. Mais ce n'est pas ce que disait l'Esprit. L'Esprit disait, tu vas aller à Jérusalem. Et des liens vont t'atteindre à Jérusalem. Et les autres, par sentimentalisme, par une espèce d'amour mêlé de sentimentalisme, commençaient à dire, oh Paul, il ne faut pas que tu y ailles, etc. Ils pleuraient, tout ça. Et l'apôtre a dit, mais qu'est-ce que vous faites à me briser le cœur de cette manière-là ? Et il dit, mais je suis prêt à mourir, non seulement à être lié à Jérusalem pour le Seigneur, mais je suis même prêt à mourir pour le Seigneur. C'est une vraie consécration à Dieu, ça, pas vrai ? Pas vrai ? Il ira jusqu'à dire, vous savez, de lieu en lieu, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais pour ma vie, et c'est là la consécration à Dieu, je ne fais pour ma vie aucun cas comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. De marcher, de vivre comme le Seigneur le veut, de faire ce qu'il m'a demandé. Ça, c'est la vraie consécration, pas vrai ? Non ? Si demain, il y a une espèce de prophète qui se lève au milieu de nous pour nous dire, voilà, dans quelques temps, il y en a quelques-uns de vous, ils vont être jetés en prison, etc. Admettons que ça peut arriver, admettons que ce soit vrai. Alors on dira, voilà, celui-là, il a dû se disputer avec sa femme ce matin. Et il ne faut pas l'écouter, hein. C'est pas un vrai prophète. Il faut qu'on prenne garde. Et il faut que, pour qu'on puisse vraiment discerner la voix du Saint-Esprit, il faut qu'on s'habitue à l'écouter, à l'entendre, de telle sorte qu'on sera capable de reconnaître la voix du Saint-Esprit. Et il faut aussi être capable se nourrir des paroles de Dieu et des paroles du Seigneur Jésus, car Jésus a dit que le Saint-Esprit nous rappellera tout ce que Jésus a dit, qu'il prendra de ce qui est à lui et qu'il nous l'annoncera. Amen. Donc voilà comment Paul a vécu, comment il a marché avec le Seigneur. Un grand travail a été fait, de nombreuses églises ont été ouvertes. Il y a eu dans certaines villes des réveils extraordinaires, dans d'autres non. Mais Paul continuait, il servait le Seigneur, il le faisait avec joie, avec zèle, avec humilité. Et il l'a fait aussi avec foi, je vais m'y arrêter dans quelques instants. Toujours est-il que dans la deuxième lecture, Paul en arrive à la fin de sa vie. Ça arrive. Non ? Même aux meilleurs, hein ? Même à eux. Dommage d'ailleurs, hein ? On a un proverbe qui dit c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Ben, c'est pas vrai. Parce que parfois, il y a des pires qui partent avant les autres. Toujours est-il que Paul arrive au soir de sa vie et il fait un constat. Et en même temps, il porte ses regards, malgré la fin de sa vie, il porte ses regards sur son avenir. C'est extraordinaire qu'un homme, un chrétien, une femme, une chrétienne, puisse arriver au terme de sa vie et porter, et être capable encore de porter ses regards sur l'avenir. Parce que pour lui, tout ne s'arrête pas à la mort. Derrière la mort, il y a un avenir sûr et certain. Il regarde son départ, il dit à Timothée, le moment de mon départ approche. Et il va maintenant expliquer ce qu'a été sa vie de chrétien. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Malheureusement, dans quelques églises et chez quelques chrétiens, on pourrait mettre sur le fronteau de ces églises ou des maisons de ces chrétiens, ici, trêve de combat. La vie chrétienne n'est plus un combat pour eux. C'est un long fleuve tranquille, se laisse aller, on a les pieds dans les pantoufles, On dit, c'est formidable, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà de lire quelques biographies d'hommes de Dieu connus. On me rend compte que pas beaucoup de gens lisent ce genre de récits. Moi, j'en ai lu quelques-uns. Et quand on lit les récits de quelques-uns de ces hommes, il y a une question que je me pose toujours à chaque fois, c'est je me dis, est-ce que je suis vraiment chrétien? Parce que quand je vois ce qu'a été leur vie, je me dis, c'était vraiment pas un long fleuve tranquille pour eux. Que de luttes, que de combats. J'ai lu l'histoire, notamment une partie de l'histoire de celui qui a été le premier missionnaire français qui est parti en Afrique il y a quelques siècles. Et quand on lit l'histoire, le récit de ce qu'il a vécu et de sa persévérance malgré tout, au fur et à mesure que je lisais, je me disais, c'est un surhomme, c'est pas possible. Hein? Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait quand même. Ils ont combattu. Ils ont combattu parce qu'ils avaient compris que la vie chrétienne, c'est un combat. L'évangélisation, c'est un combat. C'est une lutte. Dans nos églises, on entend de moins en moins les gens prier pour le salut des âmes, et pourtant, c'est le plus important. Le moment de prière dans une église devrait être un moment où vraiment il y a un combat spirituel contre l'adversaire pour que celui-ci lâche prise et que des âmes puissent se tourner vers Dieu afin d'être sauvées. C'est vrai ou pas? Quelques prédicateurs anciens me disent quelquefois que dans nos églises, on entend de moins en moins parler de la passion des âmes perdues, qu'on entend de moins en moins de gens prier pour les âmes perdues. Et pourtant, c'est une chose que nous devrions vraiment prendre à cœur, sérieusement. Et nous devrions combattre ce combat-là. Le bon combat. Paul dit, il y a un bon et un mauvais combat. Le mauvais combat, c'est celui qui consiste à se battre avec la chair, contre la chair, c'est-à-dire contre notre prochain. On en veut à la belle-mère, on en veut au beau-père, on en veut au voisin, à la voisine. Moi, j'ai un voisin, oh là là, il a l'art et la manière de me mettre en colère et de m'énerver. Il y a des moments où, franchement, c'est dur. Hein. Mais j'ai dit, Seigneur, aide-moi, il faut que je me contienne, parce que c'est pas bon et que je ne dois pas combattre contre lui. Je dois au contraire prier pour lui, pour que Dieu puisse sauver son âme. C'est vrai ou pas? Si je combats contre lui d'une manière charnelle, humaine, eh bien je me trompe de combat. Je ne mène pas le bon combat. Je dois mener le combat contre l'adversaire de nos âmes qui veut nous détruire, contre le diable, contre les puissances mauvaises, contre le péché, contre tout ce qui est là autour de nous. On doit combattre contre l'incrédulité, on doit combattre contre l'athéisme, contre la religiosité, on doit prier le Seigneur et puis témoigner, évangéliser avec le but de voir des hommes et des femmes se tourner vers le Seigneur afin d'être sauvés. Amen. Le bon combat. Il dit, j'ai achevé la course. C'est bien de commencer, c'est mieux de finir. Non? Oui, imaginez que vous commenciez la course, que vous arrêtiez 3 matins plus tard. Eh bien, si vous n'avez pas atteint la ligne d'arrivée, c'est dommageable. Moi, je suis toujours... La course dans la vie chrétienne, il faut la voir comme une course d'endurance. Qui va durer, qui va être longue, difficile, c'est vrai ou pas? Mais dans laquelle le secours de Dieu va nous être accordé, c'est très important. Moi j'ai vu des gens, imaginez, je vous donne un exemple, vous compreniez, vous connaissez tous Usain Bolt, recordman du monde du 100 mètres, 9,50 et quelques je crois, moins d'une seconde pour 10 mètres. Je dis comment ils font? C'est pas possible une chose pareille. Ben, ils y arrivent. Mais imaginez qu'Usain Bolt se mette à la ligne de départ d'un 10 000 mètres ou d'un marathon et qu'il se mette à courir le marathon en partant comme il part pour le 100 mètres. Ben, il ne fait pas un kilomètre. Il a raison ou pas? Ben, dans quelque temps, il va défaillir. Hop, on met de côté. Il n'y a plus personne. Tout Usain Bolt qui saurait. Hein. Vous voyez? Non, la vie chrétienne, il faut le prendre plutôt comme un vrai marathon. On va partir tranquillement, son rythme, avec l'objectif d'atteindre la ligne d'arrivée. Il faut atteindre la ligne d'arrivée. Il faut arriver jusqu'à là. Il faut pouvoir dire comme Paul, j'ai achevé la course. Alléluia. Et dans cette course, on n'est pas tout seul. D'abord, il y a le Seigneur qui nous aide. capable de nous ravitailler en chemin. Hein, comme le Tour de France. Vous avez vu le Tour de France ? Non, je ne dis pas ça pour vous doper, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais dans le Tour de France, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la course, il y a des points où il y a des gens, là, des messieurs, qui les attendent avec le ravitaillement, hein, avec de l'eau, avec tout ça. Et les cyclistes, ils passent, oh, puis on les voit prendre. Hein. Laissez-moi vous dire, le Seigneur, il sera là à tous les points de notre course. Et si on a besoin d'être ravitaillé, de force et tout cela, il va nous le donner. Alléluia, c'est vrai ou pas ? Il faut achever la course. Et puis, il dit, j'ai gardé la foi. La foi, ce n'est pas juste une confession. Ce n'est pas juste dire « je crois ». Parce que dire « je crois », on peut tous le faire. Mais c'est le démontrer. C'est être vrai, honnête avec Dieu pour bien savoir si on est capable, parce qu'il veut nous rendre capable aussi, d'exercer vraiment la foi pour qu'elle soit efficace et qu'elle ait des résultats. C'est vrai ou pas ? Parce qu'il faut que la foi ait des résultats quand même. Hein? Or, dans la vie chrétienne, il y a des moments où c'est plus difficile, plus compliqué que d'autres. Chez la plupart de ceux que j'ai connus, rencontrés, avec qui j'ai pu parler, ont pu me dire que dans certains moments, ils ont vraiment eu la foi. Et, Dieu les a saisis, ils ont cru, ils ont fait des expériences extraordinaires. Dans d'autres moments, ça a été un peu plus compliqué. Visiter une dame dernièrement, une dame qui a vraiment la foi. Qui a vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur. Et là, il est arrivé un problème, là. C'est pas méchant, mais il est arrivé un problème. Et elle me dit, tu vois, Fred, dans ce problème-là, je me suis demandé où elle était ma foi. Je me suis mis à douter, je ne sais pas pourquoi, elle me dit, mais c'est comme ça. Donc c'est vrai, ça peut arriver, mais le Seigneur, il va nous aider quand même, pas vrai ? Si on est fidèle, si on l'aime de tout notre cœur, il va nous donner le coup de pouce nécessaire. Ne vous découragez pas. Ça peut arriver même aux meilleurs, aux plus grands, même à ceux qui... Même Jean-Baptiste, qui était le plus grand, a dit, est-ce que c'est vraiment toi qui devais venir ou est-ce que je dois en attendre un autre ? Et donc, il a dû avoir quand même un peu... certaines choses sont passées dans sa tête, non ? Jean-Baptiste, ça peut nous arriver aussi, mais le Seigneur, il a donné une réponse extraordinaire et il est capable de nous donner aussi une bonne réponse. Amen. Et puis, il dit, j'ai gardé la foi. Et il dit, désormais, je finis avec ça, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur me la donnera. Il avait conscience que le ciel serait son partage. Le royaume des cieux lui était réservé. Et il avait le regard sur ce moment-là, cet instant, où, fermant les yeux sur cette terre, il allait les ouvrir dans le royaume éternel de Dieu. Et c'est ce qui lui a donné du courage, d'ailleurs, et de la persévérance. Je discutais avec une femme, un membre de ma famille, hier, qui est passée il y a quelques années par un problème terrible. Et c'était vraiment très difficile à vivre pour elle. Elle m'a dit ceci. Elle m'a dit, tu sais, Frédéric, ce qui m'a fait tenir, je vais te dire c'est quoi qui m'a fait tenir. C'est cette pensée-là. Le meilleur est devant moi. Le meilleur est devant moi. Et voyez-vous, frères et sœurs et amis qui êtes là, si vous donnez votre cœur au Seigneur, bien comme nous, vous pourrez dire, malgré tous les problèmes, toutes les difficultés qu'on peut traverser, etc., vous pourrez dire, le meilleur est devant moi, parce que devant moi, ce qui m'attend, c'est le ciel de gloire, c'est l'éternité avec Dieu. Alléluia. Et ça, c'est le plus extraordinaire. Je me rappellerai toujours, il y a une femme... Elle disait à mon pasteur, M. Burki, elle lui disait, M. Burki, c'est comment le ciel, c'est comment, vous ne pouvez pas me dire un petit peu, m'expliquer, c'est comment le ciel, chaque fois elle lui demandait. Un jour, alors qu'elle lui faisait la même demande, il s'est tourné vers elle, elle a dit, écoutez, je vous le promets, le jour où j'arrive au ciel, je vous envoie une carte postale. Je ne sais pas s'il l'a fait. Et il y en avait une autre, elle lui disait, frère, je voudrais aller au ciel, j'aimerais être avec le Seigneur, je voudrais aller au ciel. Et chaque fois qu'elle le voyait, elle lui disait, je voudrais aller au ciel, je voudrais aller au ciel. Un jour, elle lui dit, elle lui fait la même demande, je voudrais aller au ciel, frère, si vous pouvez Il dit, allez, bon, ça va, d'accord, pas de problème. Il dit, merci, et vous? Il dit, bon, je vais prier maintenant, puis vous allez mourir, vous allez aller au ciel. Elle fait, non, ne faites pas ça maintenant, dites-le. Elle n'était pas prête à y aller, en fait. Hein. C'est vrai ou pas? Elle n'était pas prête. Hein. Ce n'était pas le moment de son départ, celle-là. Et voyez, il faut qu'on ait conscience que le meilleur est devant nous. Que le ciel de gloire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je finis en disant juste cette phrase-là. Je le dis très souvent quand je prêche l'Évangile. Je n'ai pas été sauvé que de l'enfer. C'est déjà une grande chose d'être sauvé de l'enfer, pas vrai? J'ai pas été sauvé que de l'enfer. J'aimerais vous dire, j'ai aussi été sauvé pour le ciel. Amen. Et il faut qu'on en prenne pleinement conscience. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce.